Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Nous devons changer partout où il le faut des structures étroites et périmées de l'État et du travail. Nous devons reconstruire la société moderne en fonction des besoins réels, sans travail, sans entreprise, sans l'État. Le peuple français doit déclencher l'immense transformation qu'il veut.
Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, pour une nouvelle émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui à l'histoire d'une anarchiste espagnole des années 30, en Espagne donc, avec Myrtille Desgiménologue, co-auteur de Les Fils de la Nuit, souvenir de la guerre d'Espagne d'Antoine Gimenez, donc qui a été republié aux éditions Libertalia en 2016, A Zaragoza o al Charco, Aragon 1936-1938, récit de protagonistes libertaires, donc publié aux éditions L'Insomniaque en 2016, et enfin d'un ouvrage en cours de rédaction dont le premier volume vient de paraître aux éditions Divergence. Donc la série s'intitule Les chemins du communisme libertaire en Espagne, 1868-1937, et le premier volume s'intitule Et l'anarchisme devint espagnol, 1868-1910. Et elle a également écrit, participé, disons, à l'écriture d'un chapitre qui s'appelle Lucia et José, d'un ouvrage de Jordi Gonzalvo qui s'intitule Itinéraire, Barcelone-Perpignan, chronique non misérabiliste d'un jeune libertaire en exil et qui est paru aux éditions de l'Atelier de création libertaire en 2013. Donc bonjour Myrtille.
Bonjour.
Alors, est-ce que tu peux donc nous parler de cet ouvrage et particulièrement de ce chapitre donc qui concerne, je le rappelle, donc ta grand-mère?
Ouais, c'est là que les recherches géménologiques se sont croisées avec les histoires plus personnelles de famille, carrément. Mon père qui a toujours qui vit à Perpignan actuellement, qui était un jeune libertaire à Perpignan en exil, a toujours aimé écrire et pendant quelques années, ces dernières années, il a rédigé un peu son histoire depuis tout petit à Barcelone. Il est né en 30 quand il a l'impact qu'a eu sur lui le phénomène révolutionnaire dans cette ville-là, d'autant plus qu'il était dans un creuset, dans un quartier, dans une famille. Enfin, petite famille, sa mère et son père, hein, et des gens du quartier, mais imbibés de communisme libertaire, d'idées de... C'est des gens qui fréquentaient des Athénéos, qui faisaient partie de groupes d'action, etc. Donc, même tout petit, il s'est imprégné de tout ça, hein. Il a des souvenirs très très précis de l'enterrement de Dorothy, comme beaucoup de gens à l'époque, hein. En novembre 36, ça a été un phénomène dans la ville de Barcelone. Il y a des masses de gens qui ont défilé, qui ont chanté, qui se sont manifestés avec des banderoles qui demandaient toujours « Mais qui a tué Dorothy ?» parce que l'affaire n'est pas claire du tout. Tu sais qu'on s'est un peu penché sur la question dans Les Fils de la Nuit. Et il se souvient de l'embarquement de jeunes libertaires pour Majorque, parce qu'il y avait le jeune fils de la personne qui le logeait chez lui quand sa mère était en cavale, qui a embarqué pour Majorque avec pour les Baléares, pour reprendre les Baléares en août 36 avec un tas de jeunes libertaires, garçons et filles. Il se souvient de ça, il m'a raconté plein de trucs. Et lui-même, comme il aime beaucoup écrire et qu'il a une belle plume, il a rédigé tout ça. Et c'est les copains de Lyon, de l'ACL, qui ont dit on est preneur, on va le publier. Ils l'ont fait en 2013. On était ravis. Et lui, bon, il a tout le bouquin, c'est lui qui l'a réalisé. Hein. On lui a fourni des fois deux, trois éléments qu'on a mis en appareil de notes, des compléments qu'on trouvait intéressants, des développements qu'on trouvait intéressants. Et puis, donc en 2013, dans notre petit réseau géminologique d'amis, de correspondants, d'historiens amateurs comme nous, d'historiens plus classiques, de chercheurs de tout poil, il y avait une grande mise en circulation de données, de trouvailles. Et un copain, une fois, il m'a dit, ah ben tiens, tu devrais regarder La Vanguardia de fin 33 et début 34. La Vanguardia, donc, c'est le journal, le premier journal d'information quotidien républicain de Barcelone, qui est complètement digitalisé. Hein, donc il suffit d'aller le jour, la page, si tu as la référence précise, tu trouves tous les articles que tu veux. Et tu peux même chercher par index, indexation de nom. Donc il dit, tu devrais aller voir, je pense qu'on parle là de ta grand-mère. Je dis, tiens, elle est pas mal celle-là. Parce que dans toutes nos recherches et tout, je m'ai même pas passé par l'esprit de rechercher sur ma famille. Alors que je viens effectivement d'une famille d'anard. Ma grand-mère m'a un peu parlé de ce qu'elle a vécu, mon père aussi. Mais ça m'était pas venu à l'esprit, tout bêtement. Et donc c'est par le biais de copains que je tombe sur deux gros événements. L'arrestation de mes grands-parents en 1933, ce qui va se passer après. Et un deuxième événement, c'est l'arrestation de mon grand-père, José Gonzalo Benedicto, qui a été arrêté en 41 et qui va être emprisonné, jugé et fusillé en 42. Donc ces deux événements que, bon, le dernier, effectivement, tout le monde dans la famille le savait, que le grand-père avait été exécuté. Mais les circonstances, les modalités, il manquait plein d'éléments que mon père a appris grâce au dossier qu'un copain, encore un copain, si c'est pas le même, qui m'a signalé en travaillant aux archives du tribunal Tercero de Barcelone, ce tribunal militaire, archives militaires. Faut le savoir pour tous ceux qui ont de la famille, dans des familles de militants, dont les parents, grands-parents, ou ton ou oncle, ou ce qu'on voudra, se sont fait fusiller au Campo de la Bota de Barcelone, aux archives de ce tribunal, on trouve tous les dossiers de ces personnes-là. Qu'elles étaient exécutées ou pas. Du fait qu'elles étaient arrêtées entre 39 et les années qui ont suivi. Donc, on a nous-mêmes compulsé ces dossiers pour tous nos hommes d'action qu'on a traqués dans nos recherches géminologiques. Et voilà, Tipac, un copain me dit, ouais, mais tiens, il y a aussi le dossier de ton grand-père. Ah oui, bah, d'accord. Donc, on va s'occuper de ça. Donc, c'est deux trouvailles qui m'ont lancé là-dessus. Et du coup, je dis à mon père, écoute, ça vaudrait le coup que tu rajoutes un chapitre à ton bouquin. On va le dédier à Lucia et José. Donc, Lucia, c'est Lucia Esteve Vidal, ma grand-mère. Et lui, c'est José Gonzalo Benedicto. Donc, j'ai jamais connu mon grand-père, évidemment, et j'ai bien connu ma grand-mère, qui est morte en 1987.
Et c'est ce qui est intéressant dans le parcours particulièrement de ta grand-mère, qui était une militante anarchiste un peu plus active, disons, que ton grand-père, c'est qu'on a un peu quelques morceaux de ce que pouvait, quelques illustrations de ce que pouvait être l'activité de militants et de militantes anarchistes dans la Barcelone remuante des années 30, donc d'avant 1936, puisque ta grand-mère fait déjà pas mal de choses avant 1936 et puis d'après 1936.
Voilà, enfin, là pour le coup, on est l'affaire de La Vanguardia nous renvoie à fin 33. Et fin 33, il y a l'arrestation d'un jeune garçon de 19 ans qui s'appelle José Marinho. Et cet homme-là, on en avait déjà parlé dans Les Fils de la Nuit, c'est le fameux milicien X. Au début, on ne devait pas dire le nom avant qu'il ne décède. C'était ce milicien, ce militant ex-milicien de la colonne Durruti, qui se trouvait dans la deuxième voiture qui accompagnait Durruti le jour où il est mort. Et c'est de lui qu'on tient des précisions, enfin, en tout cas son avis personnel très très tranché sur le fait que pour lui c'est Manzana qui accompagnait Durruti, qui lui a tiré dessus et pas par accident.
Donc ce serait un assassinat politique d'une certaine façon.
D'une manière ou d'une autre. Après, pour le compte de qui, il n'a pas voulu nous en dire beaucoup plus, mais il nous a dit son témoignage tel quel. Moi, j'étais dans la voiture. Mansana nous dit que c'est un horrible accident. Il a tiré sur Dorothy sans le vouloir. Il dit les autres l'ont cru, moi non. Voilà. C'est de là qu'on tient cette hypothèse qu'on a posée dans notre grosse note sur la mort de Dorothy. Alors au début, que vous voyez pas qu'on donne son nom. On parlait par intermédiaire, en plus, par un ami de mes parents, qui le connaissait bien, donc qui posait nos questions, et lui, nous faisait passer ses réponses. Donc, ce José Marignola nous avait dit, ah, bah, de toute façon, j'ai bien connu ta grand-mère. C'était une sacrée militante, j'appréciais vraiment beaucoup. Et je lui dis, mon grand-père, tu l'as connu? Lui, un peu moins. Du style, il était pas aussi apprécié. Je lui dis, tiens. Et c'est vrai que dans la famille, ma grand-mère disait volontiers, ouais, bon. Il était engagé, mais quand même moins que moi, quoi. C'était pas un militant à fond la caisse, quoi. Ah, pour un tas de raisons, vrai ou faux, c'est ce qui ressort du témoignage familial, quoi. Ma grand-mère était beaucoup plus engagée. Donc, ma grand-mère, c'était quelqu'un qui est né dans la province de Gerona, en 1904.
Donc, légèrement au nord de Barcelone.
Oui, en Catalogne. Et qui a, comme beaucoup de filles de cette époque, a été éduquée dans un couvent. Enfin, on l'a foutu au couvent, quoi. Et comme elle disait elle-même dans un raccourci saisissant, à peine sortie du couvent, je vais bosser et j'adhère à la CNT. Elle bossait dans les usines textiles de la région de Barcelone, comme beaucoup de femmes à cette époque-là. Donc, dans l'histoire de La Vanguardia, qui relate l'arrestation d'un jeune homme qui s'appelle José Marino, qui a été visiblement suivi par la police, qui sortait d'un appartement dans la rue Jaime Giral, qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été détruite il y a très peu de temps, dans le casque antique, le vieux quartier, le gothico de Barcelone, près de la gare de France, pour ceux qui connaissent. Là vivait la famille de mon père. Enfin, il avait une sœur, hein, 2 ans plus âgée que lui, et ses parents. Tous les deux ouvriers, le grand-père travaillait dans la teinturerie. Et ce jeune garçon, José Marino, se fait attraper avec un sac sur lui contenant des bombes, des détonateurs et de la dynamite. Bon là, voilà, on retombe dans une situation assez répandue dans ces années 30 et aussi avant, mais enfin là on est dans les années 30. Dès qu'il y avait un conflit social, d'une grosse grève, il y avait des groupes d'action, jeunes gens, garçons et filles, qui intervenaient pour faire pression sur le patronat, ou si les grèves étaient, s'il y avait un lockout, s'il y avait une grève avec intervention de la police, ou intervention de sbires des patrons. Bref, c'était tout le temps une guerre sociale toujours très, 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 très marquée, quoi. Donc, on peut supposer, ce que m'avait dit ma grand-mère, c'est qu'à cette époque-là, effectivement, on appuyait les grèves avec des arguments pétardants. Donc, le Marino se fait attraper et on l'accuse évidemment d'avoir pris livraison de ce matériel dans la famille Gonzalo, Vidal, José et Lucia. Donc, tout le monde se fait coffrer, envoyé au commissariat. Alors, le José Marino, il était d'une famille bourgeoise barcelonaise, un peu en rupture de banc. On a raconté dans le livre, là, dans ce chapitre-là, on fait une petite note biographique sur lui. Là, il va être condamné à quelques mois de prison, parce que son père va intervenir, va faire jouer ses relations pour essayer de le tirer de là. Mais il va de nouveau rompre avec sa famille. Enfin, c'est quelqu'un qui est en rupture idéologique avec sa famille. C'est une famille de droite, etc. Donc lui, il va poursuivre sa vie de militant anarchiste. Et il va en payer lourdement les frais. Donc toute la famille la famille et ce jeune homme passent en procès. Mes grands-parents sont condamnés chacun à 2 ans de prison. Et lui à 4 mois et il va sortir rapidement. Mon grand-père est envoyé à la Modelo de Barcelone et ma grand-mère à la maison de femmes de Barcelone, à Calle Amaya. Dans le journal, j'oubliais une chose, dans le journal de La Vanguardia, je cite, Lucia Esteve Vidal est très connue de la police pour fréquenter assidûment les centres anarchistes et se dédier à des activités en faveur des prisonniers, à vendre des journaux anarchistes et syndicalistes quand les libertaires organisent des séances publiques. Voilà, c'est une des activités qu'on trouvait aussi typique mais elle, en plus, elle travaillait, elle était syndiquée, elle était en usine, donc elle participait aussi au mouvement de grève, etc., etc. Alors ça, c'est la Vanguardia de fin 33 pour les arrestations, le procès, Donc ça, la condamnation tombe en février 34. Et après, le copain m'avait dit, oui, mais regarde encore plus loin. Tu verras un peu. Il voulait me laisser la surprise. Donc dans la Vanguardia du 27 février 34, en page 12, on lit, évasion de la prison de femmes. Deux prisonnières condamnées à plusieurs années se font la belle. Les fugueuses étaient Adela Aulestia Mas, condamnée à 24 ans de prison, et Lucia Esteve Vidal. Le plus simplement du monde, elles avaient dérobé dans le bureau de la directrice les clés qui leur permirent de passer toutes les portes jusqu'à la sortie dans la rue, sans que personne ne le remarquât. Donc voilà, ça c'est ça, c'est la grande nouvelle, parce que mon père n'était pas du tout au courant de ça. Lui, mon père, il a un vague souvenir, donc il a 33 ans. 4 ans. Il vivait toujours dans le même quartier parce que, comme quand ses parents n'étaient pas là, j'imagine même quand il bossait dans la journée, il était au bon soin d'une voisine qui s'appelle Fernanda Vila, une très grande amie de la famille jusqu'à la fin de la vie de ma grand-mère. C'est quelqu'un qui a compté beaucoup et qui était donc en gros, entre guillemets, la dida, la nourrice, comme on disait. C'était elle qui s'occupait de mon père quand ses parents étaient occupés à travailler ou à faire des interventions, etc. Donc lui, le climat n'a pas beaucoup changé. Il était dans le même quartier, juste dans une maison qui était déjà familière. Il savait vaguement que de temps en temps, ma grand-mère, ben, il la voyait pas. Mais il savait pas, il mélangeait tout ça, si c'était pour quelles raisons. Ça. Jamais elle lui a raconté, ni à moi, qu'elle s'était évadée de la prison de femmes de Barcelone. C'était là. Donc je suppose par modestie, par groupe. Voilà. Mais pourtant, ça nous aurait bien fait plaisir de le savoir, vraiment. C'est dommage qu'on n'ait pas pu se parler, tu vois. Évidemment, c'est toujours dommage. Après coup, on dit toujours, tiens, on n'a pas demandé ci, on n'a pas demandé ça. Pourtant, elle me parlait un peu de son histoire, hein, mais bon. Ça, elle ne l'a pas dit, donc grosse surprise du chef. Tout le monde est bien content de savoir ça. En plus, en prenant la clé, par la porte d'entrée et tout, voilà.
Classe, quoi.
C'est magnifique, quoi. Et donc, là, à partir de là, bon, le grand-père, lui, il va être transféré à une autre prison à Chinchilla, dans la province d'Albacete. Et ma grand-mère va vivre dans la clandestinité, comme tant d'autres dans ces époques-là. Donc, je rappelle qu'en 1933, c'est l'époque de l'insurrection dans les régions minières de Fijols, dans Aragon, en Andalousie. C'est des mois et des mois de tentatives de proclamation du communisme libertaire, c'est la stratégie insurrectionnaliste qui donne pas grand chose, malheureusement, beaucoup de répression, beaucoup de morts, mais ça entretient un certain climat, et puis c'est une tendance là de l'anarchisme qui s'exprimait contre une autre, plus anarcho-syndicaliste, qui estimait que il fallait plutôt tabler sur une plus longue durée. Mais enfin, ça n'empêchait pas les militants de s'adonner aux deux activités, l'action syndicale, de type révolutionnaire, toujours, et des actions, entre guillemets, coups de poing, insurrectionnalistes, pour motiver, pour provoquer des clics un peu dans la population, et puis pour exprimer aussi l'exaspération des gens, dans les campagnes comme dans les villes, des conditions de vie qu'ils avaient, et d'en finir avec ce système capitaliste. Bref, dans ces années-là, ma grand-mère, il y a une forte répression, beaucoup d'arrestations, beaucoup de gens dans la clandestinité. Ma grand-mère, donc, vient de temps en temps voir son fils, et dans au logement de Fernanda Vila, et mon père se souvient de ça. De temps en temps, elle apparaissait, hop, elle repartait.
Parce qu'elle, justement, elle était en clandestinité.
En clandestinité, jusqu'en février 36. C'est ça qu'il faut savoir.
Jusqu'au moment, du coup, de l'amnistie politique qui est liée
à l'amnistie générale des élections de février 30, qui ramène un front populaire vers la gauche, enfin, un nouveau front populaire, et une libération de plus de 30 000 prisonniers politiques, essentiellement de la CNT. Donc, faut voir, c'est quand même plus de 2 ans où mon père ne voit pas beaucoup sa mère, et encore moins son père. Et l'autre, sa sœur, la Montserrat, la sœur aînée de mon père, elle a été confiée, comme elle avait des problèmes de santé, des problèmes respiratoires, elle avait été confiée à une famille de Rosas, sur la côte catalane, une famille, encore une autre dide, une autre nourrice, et encore une personne qu'on a fréquentée jusqu'à la fin de sa vie, on allait souvent la voir plus tard, bien des dizaines d'années après. C'est des personnes qui faisaient partie de cette grande famille, quoi. C'était des gens très, 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 très généreux, très, très sympathiques, très gentils, vraiment. Et Francisqueta Matas, ça s'appelait. Et elle s'occupait de Montserrat, dont mes parents étaient soulagés des deux côtés pour les enfants. Et ce qu'on a appris aussi après coup, bah, c'est la meilleure. On imagine, c'est que ma grand-mère, en cavale, allait visiter son mari à l'atoll. Il a mené on a dû avoir un faux papier, etc. Donc, là aussi, on l'a appris après, tu vois. À cette époque-là, mais, bon, elle avait l'habitude, hein, elle faisait partie des comités d'aide aux prisonniers. Donc, c'était beaucoup de femmes aidaient énormément, allaient visiter les prisonniers, transmettaient des messages, de la bouffe, enfin, elle faisait les va-et-vient, elle faisait les navettes, elle savait comment, par quel dédale il fallait passer, comment, enfin, bref, c'est des gens qui étaient éprouvés, c'était des techniques éprouvées. Donc là, elle a trouvé le moyen d'aller visiter son mari, Antoine, alors qu'elle-même était recherchée. C'est toujours rigolo. Le grand-père, il n'y a pas de raison, lui aussi, il s'évade. Là, d'après ce que j'ai su, ce que mon père a su, c'est un groupe de la faille qui a fait évader un groupe. Là, carrément, ils ont essayé de faire sortir le plus de monde possible. Mais il se fait reprendre, refoutre en tôle. Enfin bref, lui, il va passer les 2 années dedans-dehors. Mais plus souvent dedans que dehors. Et là, il va connaître, s'il ne les connaissait pas déjà, des gens de la faille, des groupes d'action, des durs à cuire, quoi, visiblement. Dont on connaît le parcours par la suite, c'est des gens qui n'ont pas arrêté, quoi. Donc, autant mon grand-père que ma grand-mère sont, peut-être même mon grand-père, à cause de cette arrestation, va se trouver encore plus impliqué dans le mouvement libertaire catalan, enfin, en Catalogne, plutôt. Et ils connaissent très bien, on va le savoir, on le sait par ailleurs, mon père le savait, qu'ils connaissaient très bien les gens du comité régional de la CNT de Catalogne. C'est-à-dire Vázquez, Guy Marianette, García Oliver, Escorza del Val. On sait par ailleurs qu'on l'a vu dans des lettres qui parlaient d'eux comme des gens qui connaissaient très bien. Donc c'est des gens bien investis. Alors on va passer là à la période
de la Révolution.
Oui, de février, donc ma grand-mère est libérée, lui aussi. Et comme me disait mon père, ben je les ai pas vus plus parce que l'intensité de la situation faisait comme tu imagines que le coup d'État, tout le monde le voyait venir, la tension, la guerre sociale ne faisait qu'augmenter, on prépare le congrès de Saragosse de mai 36, la motion sur le communisme libertaire est votée, là il y a une unification de pratiques et de accompagner cette fois d'un programme précis, hein, c'est la première fois que la CNT publie un programme révolutionnaire, avec raccordé au communisme libertaire. Hein. Il y avait un tas de textes qui circulaient, mais là, c'est le congrès vote ça. Le 4e congrès de la CNT vote la motion sur le communisme libertaire. Bon, après, il y a le coup d'État, évidemment, en juillet, et là, il me dit, alors là, je les ai vus encore moins. Là, je les voyais encore moins. Ils étaient, ma grand-mère, en tout cas, parce que c'est avec elle qu'il a le plus parlé, parce que, il faut dire que mon père a très peu connu le sien. C'est avec elle qu'il a beaucoup le plus parlé. Et là, c'était les bagarres dans les rues de Barcelone le 19, 20, 21 et 20 juillet. Elle était dans la rue, dans la bagarre, dans l'aide aux blessés. Elle m'a rappelé cette ambiance, cette atmosphère, comment elle s'était battue avec un pharmacien qui voulait pas laisser prendre les médicaments pour soigner les blessés. Enfin, elle me racontait, voilà, pour elle, un phénomène d'intensité énorme, quoi. C'était, je peux pas imaginer ce que c'était, quoi. Toute une ville là, en soulèvement, et en plus avec une victoire au bout. Là, c'est
incroyable.
Jamais vu ça, quoi. Enfin, il y a eu 1909 à Barcelone, mais bon, ça a duré une semaine, avec des barricades, avec quelque chose de sérieux, mais.
Mais ça a perdu.
Mais il n'y avait pas de perspective particulière non plus, quoi. Il n'y avait pas un programme. C'était un écœurement complet, un soulèvement des quartiers de Barcelone, parce que vraiment, ils n'en pouvaient vraiment plus, quoi. Donc là, ma grand-mère, elle va se trouver en ville pendant les bagarres, et assez vite, elle va partir rejoindre Dorothy, qu'elle connaissait aussi. Elle va rejoindre la colonne Dorothy. Qu'est-ce que je regrette de ne pas avoir plus parlé avec elle de ça, évidemment. Elle me dit que bon, il n'y avait pas beaucoup de femmes, mais bon, elle a été. Puis elle dit, ouais, ben, j'y suis allée pour aller prendre le fusil et me bagarrer pareil, quoi. Donc elle a essayé les grands fusils, là, il n'y a rien à faire. Avec ma grand-mère était vraiment petite et fluette. Hein. Ah oui, à chaque fois que je tirais, je tombais par terre. C'était, je me suis dit, elle s'est dit, je vais pas y arriver, quoi. Je vais peut-être proposer autre chose. Qu'est-ce que je peux faire d'autre, quoi. Ah ben si tu veux, il y a des prisonniers à garder. Bon, ben s'il met à garder les prisonniers, ça me plaisait pas trop. C'était quand même pour l'anarchiste. Mais il se trouve qu'elle était amenée à garder des religieuses. Et les religieuses, elles connaissaient, supportaient leur présence pendant des années et des années de sa vie quand elle était au couvent, pour son éducation de femme. Donc là, elle dit, moi, je les ai traités bien, parce que moi, je considère pas qu'il faut traiter mal même des gens comme ça. Donc elle me disait, ah, Lucia, Lucia, comme vous êtes une brave femme, vous êtes quelqu'un de... Elle dit, oui, mais ça va, parce que je le fais pour vous, là, jamais vous l'auriez fait pour nous, hein. Vous êtes, je sais ce qui vous êtes, alors arrêtez vos salam alek. Elle m'a raconté ça comme ça, précisément, quoi.
Oui, effectivement, c'est vrai que elles ont rarement eu un comportement très courageux ou révolutionnaire. Les femmes des couvents.
Oui, ben là, c'est pas des jeunes filles des couvents, hein, c'est des bonnes sœurs, c'est-à-dire voilà. Celles qui avaient fait leurs vœux. Hein.
Oui.
Parce que toutes les jeunes filles qui étaient comme ma grand-mère dans sa jeunesse dans les couvents, parce que leur famille les foutait là.
Et elles ont filé, quoi.
Tous les anards leur disaient, vous faites ce que vous voulez, vous allez dans vos familles, vous restez avec nous, vous faites ce que vous voulez, on vous accompagne. Plusieurs témoins qu'on a eus nous ont dit, on a accompagné des religieuses chez elles pour qu'il leur arrive rien, quoi.
Ça me rappelle d'ailleurs une scène du film Anarchistas, où justement il y a une jeune nonne qui s'est enfuie d'un couvent et qui finit par réciter du Kropotkin.
Qui s'enfuit, qui se fait embarquer par des prostituées.
Oui.
Mais elle sait pas trop, elle se voyait pas partir avec des anarchistes du tout, quoi. Elle se fait embarquer dans une situation, quoi. Oui, non, c'est sûr, là, c'est... Et plusieurs témoins, hein, plusieurs miliciens ont dit, là, on a attaqué un couvent, il y a plein de religieuses. Certaines, on leur a dit, vous voulez pas rester avec nous? Certaines ont dit, ah bah ouais, on reste avec vous et tout. D'autres, non, on va rentrer chez nous. Voilà. Enfin, en tout cas, ma grand-mère, là, se trouvait face à des religieuses, des vraies de vraies, quoi. Donc, elles étaient prisonnières, parce que pouvoir représenter, à cette époque-là, donc, il y a toute la théorie de la cinquième colonne, hein, tous ceux qui peuvent, à l'arrière, aider les rebelles franquistes et de droite. Donc, c'est des suspects en puissance. En tout cas, elle est gardée en tant que prisonnière. Après, donc, elle avait raconté à mon père que cette situation ne plaisait quand même pas trop, faire le garde-chiot, mais ça l'emballait pas. Elle y voyait pas une sorte de, une pratique anarchiste caractérisée. Donc, elle est retournée à Barcelone. Et elle est retournée à Barcelone au moment où on a demandé aux femmes de quitter le front. Toujours pareil. En octobre, septembre-octobre, tous les colonnes anarchistes et d'autres reçoivent en gros la consigne de virer les nanas du front. Et elle, l'a tenue à me dire, bon, peut-être que c'est pas. Dorothy avait dit non, elle peut rester. C'est une nana de confiance, elle peut rester, quoi. Elle a tenu à me le dire comme ça, en tout cas. Mais bon, après, elle a estimé qu'elle avait peut-être mieux à faire à Barcelone. Elle a préféré rentrer à Barcelone.
Parce qu'il y avait la théorie selon quoi les femmes, c'était des maladies vénériennes, et donc...
En puissance.
Et donc, il fallait les exclure du front, quoi.
Ben oui, il y a eu ce genre d'amalgame douteux et très gênant. Les femmes au front font plus de mal que de bien en propageant les maladies vénériennes. Il y avait des prostituées, de fait, oui, il y en avait. Et puis, il y avait des femmes... des militantes, des femmes de militantes, des filles de militantes, des gens qui s'engageaient comme Concha Pérez, dont on parle à Saragossa, qui s'engageaient comme ce qu'elles faisaient dans le quartier, elles allaient le faire au front. Elles continuaient avec leur groupe d'affinité de quartier, on y va ensemble, avec son frère, avec... Puis c'est tout, quoi, on continue ce qu'on a à faire, là où on a à faire, où on a envie d'être. Donc il y a moins de femmes au front à l'automne 36, dans les colonnes anarchistes en tout cas... Sauf certaines dont Antoine Jiménez a parlé, surtout les étrangères. Par contre, les étrangères, on pouvait pas leur demander quoi que ce soit. C'est des volontaires, faisaient ce qu'elles voulaient. Bon, il était fortement conseillé qu'elles ne restent pas, mais Clara Talman et d'autres sont restées. Chaque fois, on demandait la permission, mais en gros, on fait la pression pour pouvoir aller et dans la colonne de Poum et dans la colonne des colonnes de la CNT. Bref, ma grand-mère, Lucia rentre à Barcelone, et là, c'est toute une période, alors, d'effervescence, d'activité non-stop, et c'est là qu'on apprend, on comprend qu'elle a quand même fait partie un peu de comment dire, des connaissances du comité régional de Catalogne, de responsable de la CNT, parce qu'elle intervient plusieurs fois pour faire libérer des gens. Son frère aussi, Juan, était membre des patrouilles de contrôle. Ça aussi, je l'ai su longtemps après. Les patrouilles de contrôle, c'était ces groupes, en gros, de patrulleros, CNT, PUM, ERC, PSUC, chargés de traquer l'ennemi à intérieur, en gros, une sorte de police révolutionnaire, hein, et qui remettaient les gens qu'ils arrêtaient ou quand ils faisaient des perquisitions. Là, on a mon père, sans doute que sa mère lui en a parlé plus précisément, parce qu'il connaissait les personnes en question, les familles Arosas et les familles en Barcelone, que ma grand-mère et son mari ont demandé à la CNT de libérer. Parce qu'ils avaient une certaine entre-gens à ce niveau-là. Mais après, il y a l'histoire personnelle par-dessous tout ça. Mon père, après avoir reconstitué un peu tout ça, s'est rendu compte qu'il y avait eu tirage dans le ménage. En gros, courant 36-37, mon grand-père a une autre relation avec une autre femme, Aurelia López, avec qui il aura même un enfant. Une enfant. Et tout ça, mon père le savait. Il l'a su aussi beaucoup plus tard, hein, parce que c'était l'histoire que ma grand-mère lui a racontée vraiment à la fin de tout, quoi. Au départ, le grand-père était pas trop chargé, quoi, au niveau problème qu'il a créé, défaut, etc. Mais après, quand il lui a tout dit, bon, il a dit, ouais, il a une autre relation avec une autre femme, il a eu un enfant, et du coup, on se voyait plus beaucoup, quoi. Et lui, mon père, pense que c'est peut-être pour ça que ma grand-mère, après mars 38, quitte l'Espagne pour rejoindre Perpignan avec les deux enfants, pour les mettre à l'abri des bombes. Ça, de toute façon, c'est un fait.
Parce que c'est le début des bombardements sur Barcelone.
Au mois de mars, il y a toujours eu des bombardements, mais là, c'est des bombardements terribles faits par l'aviation italienne depuis Majorque. Et c'est des bombardements des quartiers populaires non-stop, jour après jour. Avant, ils faisaient des bombardements ciblés à des moments bien précis, et puis voilà, bon.
C'est pour là, démoraliser. C'est...
Tous les jours, tous les quartiers populaires sont bombardés avec des situations terribles. Là, les gens qui peuvent garer leurs enfants, ben, ils le font, quoi, à la campagne. Donc, elle aurait pu les laisser à Rosas, par exemple, où sa fille était déjà. Là, ils étaient un peu à l'abri des bombardements, encore que la côte catalane va prendre aussi. Mais non, elle décide d'aller quand même à Perpignan. Donc, mon père en conclut qu'à ce moment-là, il y a peut-être la rupture était évidente entre elle et José.
Puis peut-être qu'il y a aussi le désespoir que la guerre est perdue, parce que effectivement la situation est déjà très compromise en mars 1938.
Oui, mais elle, d'après ce qu'elle m'avait toujours dit, ce qu'elle avait dit à mon père, bon, je laissais les enfants à Perpignan, là, il y a un endroit où il y a le Centro Espagnol, où il y a des militants, des amis, des gens de la CNT, ou des Français, ou des Espagnols, qui recueillent les enfants, qui s'en occupent. Et elle comptait repartir à Barcelone, continuer ce qu'elle faisait.
Mais finalement, elle revient pas.
Et elle tombe malade à Perpignan, gravement malade. Elle a subi une grave opération. Du coup, elle prend l'appartement avec les gosses et elle reste là. Elle était en état de retourner à Barcelone. Et là, ça lui a épargné, en quelque sorte, et aux enfants aussi, la fameuse retirada de janvier-février 39. Un traumatisme de moins, on va dire. Par contre, le grand-père... Lui, on a recoupé avec des restes de lettres que mon père a retrouvées entre elle et lui quand il a été arrêté en 41. Alors, ce qu'on sait, c'est que lui, José, il travaille, il est chauffeur. Il travaille, en gros, il est lié à la Casa CNT FAI, hein, de Barcelone, le QG de la CNT et de la FAI. Et là, il est chauffeur d'un avocat, d'Emilio. Un avocat de la CNT qui s'occupe des prisonniers essentiellement. Et voilà, lui, son activité, c'est ça. Et on sait par des lettres qu'il envoie à ma grand-mère, déjà à Perpignan, qu'il n'est pas content du tour que prend la situation. Il trouve que les responsables de la CNT, il dit, Il parle de manière très acerbe de Gracie Oliver, Marianette et des autres, en disant qu'ils ne prennent pas leur responsabilité. Donc il a l'air très mécontent. Et puis il dit une phrase du genre « Ils ne sont pas à la hauteur de celui qui partit en Aragon, qu'on a autant regretté. » Donc c'est de l'outil. Évidemment, voilà, on sent que là, il y a du...
Il y a des tensions entre la base et...
Des tensions, en tout cas, de cet ordre-là, qu'il a exprimé dans un courrier, comme ça, juste quelques phrases. Donc, mon grand-père va passer la frontière, comme tout le monde, en février. Et les gens qui se retrouvent dans les camps d'Argelès, Saint-Cyprien et compagnie, s'ils ont une famille française ou de la famille dans le pays, la France, qui veut les accueillir, ils peuvent sortir. Donc là, effectivement, ma grand-mère avait un logement, elle fait la démarche, et mon grand-père sort tout de suite. Et retrouve la famille. Là, mon père me dit que c'est quasiment le seul moment où j'ai vraiment vécu avec mon père. Très peu de temps. En gros, de début 39, il va repartir en Espagne en octobre. Donc, de février 39 à octobre 39, enfin, février-mars, il est à Perpignan, en famille. Les deux enfants sont là, les deux parents sont là. Ils tirent la langue, hein, ils n'ont pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de travail. Ma grand-mère travaillait dans un hôtel-restaurant. Comme disait mon père, elle nous ramenait de la bouffe cachée dans son soutien-gorge. Ah, c'est très dur, la vie est dure. Mais bon, ma grand-mère n'a pas rancunière. Elle dit, bon, ben, on revient ensemble, et puis voilà, quoi. Puis on verra ce qui se passe. Et puis finalement, le procès, il n'a rien à faire, il voulait retourner voir sa compagne, son autre compagne, et dont il avait une fille. Donc, il décide de retourner à Barcelone en octobre 39. Voilà. Bon, mon père, c'est...
Ce qui peut paraître comme une forme de suicide politique.
Sans doute qu'il parle même plus, il pense même plus à la politique. Pour le coup, c'est des questions personnelles qui prennent le dessus. En plus, c'est un manque de prudence, parce qu'il ne change même pas d'identité. Il y va avec son identité.
Oui, c'est pour ça que c'est une forme de suicide politique.
Voilà. Dans ce cas-là, oui, ça revient à un suicide tout court. Et là, mon père, lui, pour lui, ça a été un coup très très dur. Donc sur le moment, ma grand-mère dit, et il repart combattre Franco. Elle lui cache la vérité. Bon, lui, bon, il se console avec ça pendant un certain temps. En fait, il retourne retrouver sa compagne, il vivote de petits boulots. À un moment donné, en 41, il se fait arrêter pour, soi-disant, des meubles volés. On suppose qu'il a été reconnu et dénoncé et piégé avec cette histoire de meubles. Il le garde, il l'interroge, et après il lui sort tout son dossier de militant.
En exagérant d'ailleurs un peu son importance.
Ah oui, là c'est quasiment un peu délirant. Donc il est arrêté en février 41. Alors, on dit, dans son dossier, hein, le dossier trouvé dans le Sumario José Gonzalo Benedito, trouvé aux archives du tribunal tercero de Barcelone, on retrace son pédigré. Il fut condamné et envoyé au pénitencier de Chinchilla pour y purger sa peine. Peu après, il s'évada en compagnie de quelques individus. Quand une certaine occasion, il remit à un jeune homme un paquet lui recommandant de le porter à un endroit précis. Ce paquet explosa et le jeune homme fut arrêté et confessa que c'était José Gonzalo qui lui avait donné 5 ou 10 pesetas pour porter le paquet à l'endroit indiqué, qu'il faisait partie d'une bande de malfaiteurs et que postérieurement, il fut arrêté en raison d'actes de terrorisme et pour s'être évadé du pénitencier. Voilà, bon, ça c'est le parcours avec en ajoutant du vrai et du faux, sans doute.
Et puis après, il y a ce qu'il l'accuse d'avoir fait pendant la guerre civile.
Après, dans le dossier un peu plus prolongé, enfin l'acte d'accusation, lorsqu'advint le mouvement national, il fut chef des patrouilles de contrôle, pas moins. Alors qu'on connaît les chefs, c'est Assens et d'autres, des militants reconnus, qu'il signa la sentence en tant que délégué du comité régional de la CNT du général Godet, chef militaire de la place de Barcelone. Là, c'est un des militaires insurgés de juillet 36 qui a loupé complètement son coup. Il s'est fait attraper, fusillé. Donc, mon grand-père, on ne sait pas pourquoi, quelqu'un a dit, c'est lui qui a signé l'acte de condamnation de ce pauvre Godet. Bon.
Pauvre chef Godet.
Chef des patrouilles de contrôle. C'est à cause de lui qu'on a fusillé Godet. Qu'il fut organisateur des colonnes rouges volontaires pour le front. qu'il fut délégué de la faille au comité de censure de la prison modèle de cette cité, qu'il eut un rôle important au sein du comité régional CNT-Faille, qu'il avait une très grande amitié avec Héroles, un des chefs des services d'investigation de la CNT, un personnage très très craint, effectivement qu'il connaissait bien, et ma grand-mère aussi, puisque c'est par lui qu'ils ont passé pour faire libérer des gens, ainsi qu'avec Durruti, dont il était l'homme de confiance, et chef en second des colonnes de ce nom, au front d'Aragon et de Madrid.
Quand même.
Même à Madrid, il y était. Qu'à la libération de Barcelone, il s'enfuit en France, ça c'est vrai.
Mais tout le reste, c'est...
Tout le reste, c'est une super exagération, le port, il n'était pas à ce niveau-là. Il connaissait beaucoup de gens, effectivement, ma grand-mère aussi, il était mêlé au, vraiment au cénacle rapproché de la CNT, il n'y a pas de doute, mais pas plus que ça, quoi. Il était chauffeur...
Pas au point d'être numéro 2 de...
Il était chauffeur de l'avocat de la CNT, quoi. Il y avait deux avocats, il était chauffeur de l'un et tout, quoi. Donc voilà, et tout ça, bon, alors on a vu, le dossier est assez gros, avec des dépositions de tas de gens, et aussi des dépositions à décharge. Plein de gens qui disent, mais non, il nous a aidés à partir de France, des gens de droite qui ont eu un faux papier grâce à lui, des gens à qui il a fait intercéder des gens de la CNT en leur faveur pour les faire passer la frontière. Enfin, il a plein, un pas trop mauvais dossier, y compris des gens qui disent que c'est quelqu'un, bon, finalement, qu'on a... Il n'a pas grande importance, avec tous les bonnes actions qu'il a faites, on peut considérer que finalement il s'est bien racheté.
Il s'intégrera dans la nouvelle nation.
Et visiblement, d'après ce que dit mon père, il pensait, peut-être qu'il avait quelqu'un qui devait intervenir, et il avait l'air de penser, peut-être du côté de sa famille à lui. Ça, c'est encore une autre histoire. Du côté de sa famille à lui, ça collait pas bien avec la famille de ma grand-mère. Alors, la mère de ma grand-mère, qui n'est pas acceptée, qui quitte, qui abandonne sa fille, l'a chargée. Et la famille à lui, peut-être qu'ils ont fait jouer des gens à un certain niveau, on sait pas trop, mais en tout cas, c'était pas fluide entre les deux familles. Donc, il avait l'air assez confiant jusqu'au jour de
la sentence.
Il est condamné à mort, mais même après ça, il pense qu'il peut
être gracié.
Ça peut s'arranger, oui, parce qu'il y a beaucoup de gens graciés. La sentence est confirmée début octobre, il y croit encore, et mi-octobre, il est fusillé.
Voilà, fin de l'histoire de José.
Et ça, on le sait par un mec qui était dans la cellule avec lui. Parce que toujours pareil, la famille, des fois, tu sais pas. Tu vois que les lettres ne se reviennent plus, c'est tout. Tu te méfies, tu crains le pire, évidemment. Et après, là, il y a un jeune militant libertaire qui est en prison dans la même cellule que lui, qui écrit à ma grand-mère, à mots couverts, « Ah, le pauvre José, que j'ai bien apprécié, il était vraiment très très malade, et là, il s'est pas remis. » Mais jusqu'au dernier moment, il a beaucoup pensé à toi. Donc, ma grand-mère va, après ce jeune militant qui est lui-même condamné à de lourdes peines, à la peine de mort, avec tout un groupe de gens qui s'étaient révoltés, de jeunes militaires qui s'étaient révoltés, il va être fusillé aussi quelques mois après. Mais entre-temps, ma grand-mère correspond avec lui pour l'aider, pour le soutenir. Donc, c'est une histoire à rallonge, tu vois, là. Le grand-père, le semi-militant, qui s'appelait Felipe Ratero. Voilà, donc on a ces lettres, et des échanges de lettres entre lui et ma grand-mère. Ça te donne aussi un peu une idée de climat, de ces gens-là, comment ils ressentent les choses à ce moment-là. Et ma grand-mère a aidé son mari jusqu'au dernier moment, a envoyé des sous, du linge. Et puis le pauvre, le malheureux, en prison, donc, sa compagne meurt. Elle devait être malade, on ne sait pas ce qu'elle avait. Et finalement, on ne sait toujours pas ce qu'est devenue la petite fille. Tout ça s'est perdu dans le fuite. Ma grand-mère, elle a pas su ce qui s'est passé, où elle est passée, qui l'a récupérée. Enfin, c'est des tragédies encore à rebondissement. Voilà l'histoire, le chapitre qu'on a rajouté, le troisième chapitre qu'on a rajouté au livre racontant son parcours de jeune libertaire à Perpignan. Donc lui, il raconte son parcours de jeune enfant à Barcelone et à partir de 1938, ce qu'il a fait à Perpignan, jusqu'en 1975, son investissement dans les jeunesses libertaires, les passages de frontières, les passages de militants, les passages de propagande. Lui et ma mère, hein, tous les deux. Et ça, c'est raconté plus précisément dans un bouquin de Guillaume Goutte, Les passeurs d'espoir, aux éditions libertaires, où on voit des entretiens qu'il avait eu mes parents et bien d'autres gens de Perpignan. Il y a aussi une très belle photo de mes parents à la fin de ce bouquin. Et dans le bouquin de mon père, bah, quand on mettra les photos sur ton site. Hein.
Donc voilà, c'était l'histoire de cette génération des Gonzalbo. Puis ensuite, la génération suivante, donc celle de Jordi Gonzalbo. Tout est raconté dans cet ouvrage Itinéraire Barcelone-Perpignan, chronique non misérabiliste d'un jeune libertaire en exil, donc paru aux éditions de l'Atelier de création libertaire en 2013. Et puis la saga continue avec la dernière des Gonzalbo qui maintenant a écrit plus de 1500 pages sur ce sujet. Enfin, notamment co-écrit 1500 pages sur ce sujet et déjà 3 ouvrages à son actif.
On continuera comme on pourra dans les chemins des communes libertaires.
Voilà, bah merci Myrti.
De rien.
Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle. Mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Connaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Nous devons changer partout où il le faut des structures étroites et périmées de l'État et du travail. Nous devons reconstruire la société moderne en fonction des besoins réels, sans travail, sans entreprise, sans l'État. Le peuple français doit déclencher l'immense transformation qu'il veut.